Inouï.
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 Une émission de création et documentaire sonore des étudiants du Créadoc d'avant et d'aujourd'hui.
C'est novembre sur Inouï.
Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun.
Dans la rue, peut-être que vous voyez déjà les premières guirlandes de Noël. Peut-être que vous entamez également vos premières conversations pour organiser les vacances en famille.
Oui, pour certains, Noël est un moment convivial et attendu. Pour d'autres, c'est un temps de nostalgie, une fête un peu redoutée. L'arrivée de l'hiver remue des souvenirs et des désirs de retrouvailles. Tout comme parfois, il anime une volonté de fuir.
Mais on ne fuit pas dans Inouï, et cet épisode vous propose une pause dans l'arrivée de l'hiver. Une pause tout d'abord avec Le Temps qu'il faut, un documentaire d'Ambroise Cousin.
Vous y rencontrerez Mathieu. Mathieu est resté dans la ferme familiale. Il construit son avenir, au milieu de ses souvenirs. Pose une nouvelle pierre à l'édifice de plusieurs générations de viticulteurs, dont le père, la mère, le grand-père en sont encore les protagonistes.
Les gens qui étaient à la terre, c'était un métier très dur. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup moins fatigant. Dans la viticulture, là, celui-là qui travaille, il n'est pas malheureux. Hein. Moi, maintenant, c'est Moxian. J'ai 85 ans et demi. Et j'étais viticulteur. Maintenant, quand même, je suis en retraite, tu vois. J'ai mon fils qui a pris l'exploitation et maintenant le petit-fils est rentré dans l'exploitation aussi, avec son père en société. Mais tu vois, il y a des gens qu'on a là, même à Cigogne, il y en a qu'en 150 hectares de vignes. Alors là, c'est déjà l'exploitation industrielle. Hein. Nous, c'est encore de l'exploitation familiale.
Le temps qu'il faut, d'Ambroise Cousin.
Tonton, il doit être encore dans les vignes. Normalement, oui. Je pense qu'il doit être parti sur Courbillac.
Ah, d'accord. Il a fini là, de ce côté ?
Il y en a encore un petit peu. Là, à la ferme, mais ils n'avaient pas tout à fait fini de tirer les bois. Là.
Il est pas là, le père ?
Il est parti désherbé.
Oh. Il est parti ?
Désherbé.
Ah,
qu'est-ce que tu bricoles? T'avais mis 3,5 kg de pression? T'es sûr? Ah bah c'est pas normal qu'il reste 158, il devrait en rester moins, t'en as pas mis assez là. Bah écoute, je sais pas. Bon bah écoute, j'arrive. Bon, on peut aller là-bas maintenant. C'est pas cher.
Pour un escabeau ?
Ouais. Ça sera mieux. J'espère que tout n'est pas au fond, parce que si le colis est tombé au fond, on peut... Ma tuyau, il est là.
Je ne dévisse pas quand on en sort.
Ça aspire plus, ça aspire de l'air. Il est défait, il est tombé dedans. Et ça a marché jusqu'au dernier rang, c'est sûr ?
Oui.
Donc c'est tombé le long de la route. Quoi.
Bon, on y va à la pêche.
Bon, ça va pas être bien compliqué, là.
Ouais, d'accord, il y en a tombé de l'autre.
Tiens.
Il faut que tu prennes.
Allez.
C'est un point noir.
On va aller voir cette dimension-là.
Je vais aller voir si on a. Très bien, tout ça.
Enfin, là, je vais aller voir ton grand-père.
Vendu.
Bah, j'ai reparti.
Le mécano a fait son boulot.
Ah, on peut changer le colis, le tournier que j'ai mis, il a plus qu'à 102.
C'est ça quand on est trop fort.
Allez, tu peux remettre le capot. Enfin, on essaye quand même parce que. Mais ça doit marcher.
Oh, bon, mais ça va marcher. Le retour à la
derrière, elle ne marche plus. Et oh, ils sont tous les trois, l'escabeau derrière.
Je vais pas faire une grosse journée.
Bon ouais, ça marche. Bon, là, je vais finir de tendre encore. Où il y a des tendeurs là juste au bout.
Ouais.
Et puis après je finirai de tendre le reste plus tard.
Oui, bah t'inquiète pas, j'en ai pour.
Déjà, t'as déjà de quoi t'occuper.
J'en ai pour oui. Pour le week-end là, je crois.
Avec le et midi.
Ce n'est pas une surprise sur la liste au départ des bases centrales. En revanche, le CEMAR
transmet
également à la justice les cas des trois hauts responsables de l'Élysée. Lionel Laverne, chef de groupe de la sécurité de la présidence. Patrick Stroda, directeur du cabinet.
Qu'est-ce qu'il fait,
et Alexis Collet, chef de l'Élysée. Hein? Proche collaborateur d'Emmanuel Macron.
Non,
la République En Marche a une instrumentalisation politique.
Aujourd'hui, c'est une intervention politique politicienne qui vise à dire à salaire d'honneur des fonctionnaires de la probité et reconnu sans éléments sociaux. C'est ça, c'est une connerie.
C'est gênant pour le président Macron, sûrement, parce que c'est pas
mal. On appelle plus.
Attends, j'arrête.
Vous êtes réveillé, non ?
Au-delà de la question judiciaire, la bataille politique entre l'Élysée et le Sénat va donc se poursuivre.
Oui, ben non, moi, je mange que...
Bon, allez à tous, dehors, on mange. Hop là. Allez.
Ici. Non. Non, non.
Il y a combien d'écart ?
4 litres.
Bah oui, mais ça colle pas.
Mais qu'est-ce que t'en as à foutre ? Faut que je fasse coller avec ce qu'il y a marqué là, moi. Alors, tu me donnes le résultat avec ma première page et c'est bon, hein ?
181.
Je m'en fous, moi, du reste.
Tu t'en fous du reste, mais ça colle pas avec ce qu'on va déclarer, ce que j'ai déclaré sur mes autres cahiers, moi. Alors, faut que ça colle. Il y a une erreur en quelque part, faut la trouver, et puis c'est tout.
Mais j'ai plus le temps, là, moi.
Ah bah, mais tu vas pas écrire n'importe quoi alors que c'est pas vrai.
Mais c'est pas un litre près. On a déclaré comme ça, maintenant. Hein. Je te dis, moi. On doit pas être les seuls où il y a quelques litres d'écart. Hein.
Ça va pas, ça me plaît pas, du tout. Ah, tu te retrouves avec 30 litres d'écart. Là, tu seras pas l'air.
Oui, alors, on fait comment, là ? Eh bien, écoute, je t'avertis, lundi, c'est toi qui y vas, moi, j'y vais pas. Hein. Faut pas me faire engueuler. Tu te débrouilles, c'est toi qui distille, c'est toi qui te débrouilles avec. Hein.
Ben, mais vaut mieux pas y être à 4 heures et puis que ce soit juste.
Quand je te dis que c'est celui qui distille qu'il faut qu'il remplisse ça...
Mais il y avait une erreur sur le cahier le soir où j'y ai été jusqu'à minuit là pour trouver d'où ça venait. Du coup, ça fait un décalage sur tous les mois. Donc c'est pour ça que tu te retrouves avec un décalage là. Donc faut le récupérer à la fin. Parce que moi, je l'ai déclaré comme il faut sur mon cahier. C'est bon, là, sur le cahier. Mais ça va pas coller, là. Il y a un décalage sur les deux, sur deux mois, là.
Pourquoi tu l'as pas rempli ce matin, le cahier, pendant que tu faisais tes comptes ?
De quoi ?
Ce cahier-là, pourquoi tu l'as pas fait, toi ? Bon, ça t'aurait vu qu'il y avait une erreur. Et ça serait fait. Voilà. Parce que là, maintenant, il va falloir bidouiller, là, aussi. C'est toi qui fais les comptes, hein, c'est pas moi. Hein. Moi, je retranscris ce que tu me donnes comme compte. C'est tout, hein.
Bon, alors, est-ce que je vais réussir à rattraper un crayon ?
Écoute, tu fais ton petit bidouillage, on refera les pages, et puis lundi, tu prendras ton courage à deux mains et tu vas à la régie. Tu leur expliqueras tes affaires. Moi, maintenant...
Tu la sens pas la souris ? Elle est fourrée. Elle est planquée dessous. Bora, Bora.
Allez, monte, allez, monte. Allez. Allez.
Ah bon ? Vas-y.
sais pas, alors, du coup, à 4 heures, le secrétariat était fermé.
Ouais, ouais. Je ferme à 4 heures.
Ah, soyez où, là-bas ?
Ouais, on ferme à 4 heures.
Bon. On lève un bazar, quoi. Eh ouais. Ah, mon pauvre. C'est le bazar, quoi, qu'est-ce que tu veux.
Eh ouais. Je te fais assez comme ça.
Il faudra que tu retéléphones demain, alors.
Demain matin, Bernadette doit s'en occuper.
Ah oui. Ah ben, le matin, on est peut-être quand même...
Ben, on est ouvert le matin, oui.
Ah oui. Il est bien autrement que chirurgien là-bas.
Oui, il est gentil.
Ah
oui. Oui, il explique bien.
Oui.
Il m'a dit, je peux rien vous garantir. Il dit, il y a des opérations que je garantis à quasiment 100%, mais il dit là, c'est sur le taille que je verrai ce que je peux faire.
Ouais, le bazar, quoi, c'est tout. Hein. Mon pauvre.
De ne pas vieillir.
Mais oui, mon pauvre, qu'est-ce que tu veux, comme ça, quoi. Faut vivre avec ses malheurs, quoi, et puis c'est tout. Bon, ben, on reviendra un autre jour, hein.
Bon, ben, d'accord, alors.
Va te reposer, là.
Il y a des charbons et de la foie d'avoine dans la lagune.
Ah bah ouais.
Bon, on jette un coup d'œil.
Alors pour désherber, il faut que le stade de la céréale, il faut que la céréale soit repartie là. Là en termes de végétation, je dirais, bon là ça y est, ça redémarre. La céréale peut supporter un désherbant.
Ouais, moi, je pense que le top départ se donne. Fin de semaine, début de l'autre.
Bah, le problème c'est qu'ils annoncent de l'eau. Voilà. Le souci va être là.
Invasion de chardon.
C'est pas ce qui s'est passé là, t'as dû.
Bah là, il y a eu un. Ça a doublé là. Parce qu'il faisait noir quand j'ai fini de semer ça et le semoir était vide et je savais pas où ça s'était arrêté. Et voilà. Donc il y a eu un bout là où j'ai repassé deux fois. Donc bon, il y aura des épis énormes.
C'est plus propre, méthode à faux d'avoine. Alors la foie d'avoine, si tu veux, sur blé dur, c'est 0,9. Sur orge, c'est 1,2 litre, les doses homologuées. Enfin, je vais te faire un papier, là. Je vais te faire un papier.
Marque-moi tout ça, parce que je m'en souviens. Enfin bon, c'est marqué sur les bidons, hein, parce que...
Oui, on va faire une préconisation dans les règles de l'art.
Ah bah oui, faut pas que ça... Faut pas rigoler, hein.
Et la nature, c'est passionnant à observer.
Propriété, nom du client, ERL, de la Delphinière. Interlocuteur, Mouction Mathieu. Donc, on a dit qu'on mettrait de l'alquera.
Il n'y a pas d'autres produits pour mettre sur l'orge, non? Parce qu'on met ça tous les ans, et je me demande si ça les nourrit quoi, ça.
Non.
Non.
Avant, tu avais le baguera qui existait.
J'en ai mis de ça, ouais.
Qui existait. Tu regardes si t'as des stocks éventuellement.
Non, ça j'en ai plus.
Aujourd'hui, t'as l'axial, mais c'est la même chose.
D'accord. Si c'est la même chose, si c'est juste le nom qui change, ça
Ben oui, voilà. Hein.
Peut-être que le nom va leur faire peur, hein, je sais pas.
Après, t'aurais fait que du blé, je t'aurais proposé de mettre de l'octogon.
Ben ça, j'en ai mis, toi aussi, des années.
Ça aurait fait. T'aurais tout fait, quoi.
Bon, ben allons-y. On verra bien.
Ensuite, le délai de réentrée dans la parcelle après le traitement. 48 heures pour l'un et 8-6 heures pour l'autre. Voilà une ordonnance.
Merci bien. C'est combien la consultation? C'est remboursé par la sécurité sociale.
La tête du cochon, elle est toujours là.
Elle est toujours là. Il faut que je regarde ce qu'il me faut pour mon grondin.
Je vais chercher les gros bois pour mettre dans le chenil.
Quel beau soleil quand même. Hein. Là, c'est agréable, ça.
Alors, ça boue ?
Ouais.
Non, parce que j'ai bien fait d'aller à la maison.
Ah.
Le comptable qui a appelé. Et le gros pédicure. Ah, oui, le labo. Le labo, parce qu'ils ont demandé, Crépon a demandé qu'il lui refasse une carte de groupe sanguin.
Bien là. Il n'y a pas de date de fixation.
Non, c'est le laboratoire qui a appelé.
C'est le laboratoire. Pour ta carte de groupe sanguin.
Oui, oui.
Bon, je vais chercher ma recette de boudin pour savoir.
Ben oui.
Ah ben oui, il faut que je cherche du vin. Je prépare les saucisses.
Eh ben, tu es parvenu ?
Non. Non, on ne l'a pas vu. Il est passé 4 hectares, non ?
Ah, je sais pas.
Je crois, enfin j'ai entendu la tracteur démarrer. Je sais pas. Allez.
Allô? Ils viennent de t'appeler? Lundi prochain, là? Ah. Oui, tu me diras ça tout à l'heure. Il y en a une autre, là, qui vient d'appeler?
Oui.
Alors, normalement, ça serait lundi. Je sortirai lundi soir, tu me dis.
Ah oui, lundi soir?
Oui.
Soyez où?
Ben oui.
Oui. Ah oui.
Ben, il y a assez longtemps que je traîne. Oh putain, depuis les vendanges, quoi.
Depuis avant, même.
Ah oui, mais enfin, là, bien, depuis. Eh, voilà le chef. Il est parti. Il était parti à la pêche. Il avait ramassé les
mains. Il était à la pêche ? Non, ça m'étonne. Il est à la pêche, Mathieu. Ça va, Mathieu ?
Bonjour.
Ouais, peut-être que tu baisses un petit peu la pression là.
Bien,
parce que Attends, mais là, faut être un chaque groupe et un qui règle.
Tu veux que je tienne quoi, moi? La grille, elle aura attendu
quoi? Non, mais non, simplement. Ah,
mais... Ouais, mais il faut pas que ça fasse ça mal, ça.
Attends, parce qu'il faut.
Ah ouais, d'accord.
Non. Mais attends, on va baisser les trépieds là.
Ouais. Ouais, mais ouais, mais la grille va plus tenir. Là.
Mais là, tiens la grille.
Ouais, mais ça tient, ça coince devant là, avec ton truc. Avec. Ouais. Non mais hé, oh, tu vas te calmer, oui, qu'est-ce qu'on est fait aujourd'hui?
Toujours des réflexions à faire. Et bon.
Il y avait une petite femme qui se
conduit.
Mais d'habitude on ne met pas ça.
Mais et comment tu voulais que je fasse?
Mais je sais pas qui est
là. Là, ici je pense.
Mais tu l'as? Il y a trois trous qui restent. Il y a trois trous qui restent dessus.
Ouais.
Le temps qu'il faut, d'Ambroise Cousin. Merci à Mathieu, Christine, Pascal et Claude Moxion. Merci aux camarades du Créadoc, Créadoc Angoulême, le 11 avril 2019.
Inouï. Une émission de création et documentaire sonore. Par les étudiants du Créadoc d'avant et d'aujourd'hui.
Mathieu reste lié à sa terre natale et en fait son lieu de vie et de travail. Sarah, quant à elle, est partie à la recherche de ses souvenirs en interviewant celles et ceux qui ont fait le même voyage qu'elle. Sa propre mémoire se dessine grâce à celle des autres.
On vous laisse donc avec Sarah Hopsor et son documentaire « Personne ne naît deux fois ».
T'as énormément de souvenirs.
Bah ouais, c'est ça que j'avais à l'époque. Je m'en souviens que on vivait plus de l'agriculture. Mon papa, il avait en fait des bœufs, la charrue, et puis il faisait à l'ancienne, quoi. C'est lui qui poussait. On n'avait pas d'engins mécaniques comme ici, les tracteurs et tout ça, quoi. C'était vraiment on fait à la main. Et puis il avait des hectares et des hectares à faire. Et on allait dans les champs, j'allais l'aider, j'allais lui apporter à manger et à boire. Ça c'est les quelques souvenirs que j'ai de ma famille et de mon quotidien. Et puis après, c'était plus dans le camp de l'orphelinat, quand on jouait au ballon, on prenait un tissu, on cousait ça, et puis on faisait des équipes de 7 ou de 9. On installait pas des poteaux, c'était à l'époque des affaires. On faisait deux buts et puis on jouait, tout le monde jouait comme ça.
Je me souviens qu'on était un groupe important d'enfants, une bonne trentaine. Il y avait un grand dortoir, on dormait les uns à côté des autres. Vraiment, les lits collés serrés, il n'y avait même pas un espace pour mettre le pied entre deux lits. On chantait beaucoup quand on était dehors, tous ensemble. On se faisait aussi parfois des tresses, des coiffures. On se mettait, enfin, les plus petits, on les mettait par terre et puis les plus grands... On faisait des tresses ou on les coiffait par tous les moyens.
Au fur et à mesure que je grandissais, mes souvenirs devenaient lointains. Et après, j'en ai douté énormément. Est-ce que ça a réellement existé? Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que je l'ai imaginé? Est-ce que c'est ce que j'aimerais bien que ça s'est passé? Enfin, du coup, j'avais l'impression qu'au fur et à mesure du temps, je reconstruisais une histoire et j'avais besoin d'avoir une confirmation que j'avais ressentie. Et c'était pour ça qu'à un moment donné, j'avais besoin de partir en Éthiopie pour réellement me dire, voilà, ce que tu as pu penser, ce que tu as pu raconter, ça a réellement existé, c'est pas un rêve. Tu as bien été adopté et tu viens bien de quelque part.
Personne ne naît deux fois. De Sarah observe.
On est où là?
On est à Trévenec.
C'est où?
C'est où? C'est dans les Côtes d'Armor, pas loin de la grande ville Guingamp. Donc on est à 10 km, 10-15 km de Guingamp. Comment je m'appelle, hein? Mon prénom français, éthiopien.
Comme tu veux.
Emilien, et mon prénom éthiopien, c'est Masrecha. Et ça veut dire tu nous as fait oublier notre chagrin. Je viens de Matema, c'est à côté de Gonder, c'est à 100 km de Addis Abeba. Matema, le petit bled. Et j'ai travaillé en tant que poissonnier à Carrefour Pampol, dans les Côtes d'Armor, dans le 22. Ça fait 10 ans que je fais ça. Je suis rentré en 2009 et on est en 2019.
Moi, c'est Mathilde. Je suis maman de deux enfants. J'ai 31 ans et je suis assistante sociale de métier.
Je m'appelle Adèle. J'habite en Normandie, à Pont-Audemer, dans l'Eure. Je suis actuellement mère au foyer, j'ai pris un congé parental. Sinon, je suis assistante maternelle depuis 3 ans. Et j'ai 31 ans.
Est-ce que je t'ai dit de tout déchirer? Est-ce que maman l'a dit de tout déchirer?
Non.
Dis donc, petite coquinette, là.
Oui, oui.
Toi, par exemple, tu la connaissais, cette photo?
Oui. Quand je suis partie en 2006 en Éthiopie voir ma sœur, elle m'avait transmis une photo. Et on était tous debout, habillés la même façon. Donc, j'avais une photo similaire, mais celle-là, je ne l'avais pas.
Alors, c'est une photo en noir et blanc. On est assis sur des bancs. Il y a deux bancs. Et on est tous les uns à côté des autres. On voit les futurs enfants adoptés de 92, qui étaient au camp d'Azozo.
Il y a quatre adultes, dont un qui a l'air proche du groupe. Il y en a trois qui sont donc un peu plus en arrière. Donc les enfants, ils sont assis bien sages, ils ne bougent pas.
Bah, y a toi, Sarah, moi...
Lucie, moi...
Mathilde, Agnès...
Tiffany, Emilien...
Menalou, Tegenta, les deux Tegenta...
Là, il y a Bruno, il y a François, là... je ne me souviens pas...
Amsalika, Mola, Déjeuner...
Là, il y a Fenta, avec qui je devais être adoptée, mais ça ne s'est pas fait...
Et on regarde la personne qui prend l'en photo, sans doute.
Je dirais que dans le regard, il y a à la fois une interrogation de qu'est-ce qui va se passer pour nous, pour notre futur, et qu'est-ce qu'on va perdre, j'imagine.
Je pense qu'elle a été prise très peu de temps avant le départ.
Voilà, c'est des petits Africains qui vont devenir des petits Français dans quelques temps, j'imagine.
On se retrouve à chaque fois, c'est tu te rappelles de ces chansons, tu te rappelles de quand on priait le matin à telle heure, il faisait nuit. Ah oui, non, je m'en souviens pas. Et puis toi, tu te souviens de quoi?
On disait ne d'avalan, je flotte ne d'avalan, ah ne d'avalan, je flotte ne d'avalan, ah ne d'avalan, je flotte ne d'avalan. Ça, je m'en souviens bien. Et apparemment, c'était le chant révolutionnaire, je sais pas ce que ça voulait dire, mais ça, je m'en souviens. On allait grimper aux arbres et puis je faisais des brochettes de dattes. Il y avait des dattes, des arbres fruitiers. On prenait une petite brochette et hop, on les enfilait et puis on mangeait ça. Ça, c'est les souvenirs que j'ai de là-bas. Pendant la guerre aussi, on était sous les lits, on entendait les bombardements et avec les chars et tout ça. Ça m'avait surpris aussi, ça m'avait bouleversé. C'est des souvenirs qui me faisaient peur.
Dans les années 80, en Éthiopie, c'était la famine. Et famine et sécheresse, enfin la plus grosse sécheresse qu'il y a pu avoir. Du coup, l'État rapatriait tous les enfants orphelins vers des camps militaires pour essayer de éradiquer un peu les morts, les maladies. Et c'était ça. Hein.
J'ai très peu souvenir de mes oncles et tantes. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je savais qu'on avait au moins un père parce que je me souviens très bien de lui. J'avais vécu beaucoup, beaucoup de temps avec lui. Principalement pour aller prier dans des églises. Je me souviens quand il venait nous voir au camp d'Azozo. Je me souviens de lui. Il essayait toujours de
d'être le plus proche de nous, même avec les barrières. Je me souviens qu'il était derrière, il nous regardait, il passait du temps, et puis tout d'un coup, il partait. Je me souviens pas du coup de notre mère. Je me souviens principalement de notre père, et puis de toi, au camp. Donc je savais que j'avais une sœur, je savais que j'avais un papa, et les autres membres de ma famille, je m'en souviens pas du tout.
Moi, ça m'intéresse beaucoup vos souvenirs parce que moi, j'en ai pas. Et du coup, je me demande comment vous avez fait pour les sauvegarder.
Je sais pas comment expliquer ça. C'est des choses qu'on peut pas effacer. Après, voilà, tant mieux. D'un côté, les bonnes images, elles resteront dans la mémoire. Mais les mauvais, comme les bons, ça reste toujours dedans. Et puis après, c'est à moi de faire le pour et le contre. Mais ça restera toujours quelque part au coin de la tête. C'est comme quand j'étais petit, j'avais vu ma maman, tout le village en fait. Un jour, je me réveille et je voyais tous les gens autour de moi, ils faisaient un cercle et je me demandais ce que c'était. Donc moi, je veux voir ma maman, je veux voir ma maman. Et les gens, ils m'empêchaient de voir, donc je comprenais pas pourquoi. Et effectivement, ma maman, elle était par terre et puis tous les gens, ils étaient en train de pleurer. Et sur le coup, j'étais un peu choqué parce que je voyais ma maman et je la secouais parce que pour moi, c'est pas possible qu'elle soit morte. Et c'est comme ça qu'elle est décédée, quoi.
Tu te souviens de tout ça?
Moi, je me souviens. Ils faisaient comme la barrière, là, tu vois. Les gens étaient tout autour. Et ils m'empêchaient d'aller la voir. Ils m'empêchaient. Et puis moi, je poussais tout le monde. Et puis là, quand j'ai vu, je disais ma maman, 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 maman. Et je la secouais. Je faisais plein de bisous. Et les gens, ils m'ont expliqué que c'était pas la peine parce qu'elle était décidée de famine. Tout ce qu'elle avait, en fait, elle donnait pour moi, pour son enfant. Et puis elle ne mangeait rien. Et je pense qu'elle est morte de famine. Mon papa, il m'a bien expliqué que j'allais aller dans un orphelinat parce qu'il pouvait plus s'occuper de moi et que ça serait bien pour tout le monde. Il a dû se renseigner et il m'a dit tu seras bien nourri, logé, blanchi, tu auras des parents qui t'aimeront. Il m'a donné une belle vision, quoi.
Un soir, on nous a réveillés dans la nuit, tous les enfants en partance pour la France. On nous a distribué des vêtements. Ensuite, on a dû attendre au moins une heure ou deux. Un camion, un énorme camion à ciel ouvert. On est monté dans le camion et on quittait le camp d'Azozo, Gonder et l'Éthiopie.
Dans mes souvenirs, c'était une camionnette blanche. Et après, on a pris l'hélicoptère. On était tous malades. Arrivés à 10, on nous a débarqués. Et on est arrivés donc, dans l'orphelinat à Addis Abeba. Je ne sais même pas si c'est un orphelinat. Hein. C'était une sorte de couvent pour enfants, je ne sais pas trop. Et on a été divisés par deux groupes. Et je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui se passait, un changement radical qui allait se passer. Déjà, c'était un monsieur blanc qui est venu nous chercher. Moi, je m'étais donné comme ordre de suivre et de ne pas m'exprimer, mais voilà, de rester bien sage. Il nous avait offert du coca. Moi, je l'avais bu, mais bon, voilà. Et puis, j'ai vu aussi la réaction de Fenta, de Julie. Je me rappelle, il la tirait comme ça. Là, la pauvre a essayé de se tenir comme elle pouvait. Et puis, quand on est arrivé à l'aéroport à Paris...
On était dans un hall. Puis après, il y avait un panneau adoption pour que les parents viennent chercher leurs enfants. Et puis, on attendait chacun nos parents respectifs, quoi, au fur et à mesure.
Du coup, il y avait les familles derrière ces portes blanches, vitrées. Il y avait ce groupe de blancs avec des enfants. Et nous, on était ce groupe d'enfants futurs adoptifs, les uns, entre guillemets, contre les autres, ou les uns face aux autres. On regardait, on essayait vraiment d'analyser les comportements des gens, le faciès des gens.
Donc du coup, on avait des photos et on savait lesquels étaient nos parents. Et puis ils venaient nous chercher. Le Menalou et Masrecha, il y avait vos parents français. Hop, et du coup, ils faisaient la distribution entre guillemets, quoi, l'acquisition entre les parents adoptifs et puis nous, quoi.
Du coup, on m'a présenté à mes parents. Mes parents, voilà, des bisous. Alors moi, j'étais là très très apeurée. J'étais pas forcément dans le rejet, mais très apeurée. Je comprenais pas ce qui se passait. Mais voilà, j'étais toujours obéissante.
Donc on voyait ce flot d'amis qui partaient, et les uns après les autres, on avait le temps d'analyser pour les derniers ce qui se passait. Une fois qu'on a quitté nos amis, là je savais que quand on partait avec ces blancs qu'on ne connaissait pas, et qu'on était dans la voiture à partir loin, 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 je me suis dit là, on ne peut plus faire marche arrière, à nous d'analyser au mieux ce qui se passe. Il n'y avait plus le groupe d'amis, il n'y avait plus cette entraide, il n'y avait que Sarah et moi, ou chaque personne qui était adoptée entre elles. Dès le premier jour, je pense, dès qu'on nous a distribués aux familles, on a compris. On a compris que ça ne serait plus jamais comme avant.
C'est là que j'ai pleuré. Pour la première fois, mes parents ils m'ont posé dans la voiture et je regardais Fenta partir. Là, je me suis mise à pleurer. Pleurer pourquoi ? Parce que je pense qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'émotions, beaucoup de peur, beaucoup de crainte de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive. Et de fatigue, je pense aussi, du coup. J'ai pleuré parce que il y avait une forme de prise de conscience aussi de la perte de quelque chose. Du coup, j'avais même mal au cœur, j'avais envie de vomir, donc mes paroles se sont arrêtées. Et puis, à partir de là, je savais que la roue avait tourné. Il se passait quelque chose, il fallait que j'avance dans ma vie, il fallait plus que regarder devant. Pour moi, c'était ça, il fallait s'adapter et qu'advienne que pourra. Et j'avais envie de m'adapter et d'être épanouie. Alors, je ne l'exprimais pas comme ça dans ma tête, mais il y avait ce sentiment-là. Faut avancer dans la vie. Au-delà des craintes, mes parents ils étaient très affectueux. Alors, moi, j'avais pas l'habitude, mais j'étais comme ça. J'avais peur, mais en même temps, c'était pas déplaisant. Ma mère me prend mon père, j'ai une poupée dans mes bras, j'ai des gâteaux. Voilà, enfin, j'ai une photo, c'est comme ça. Et je souris. Alors, je souris bêtement parce qu'on me sourit, mais je pense que je suis aussi touchée par ça. Au tout début, quand je suis arrivée, je rêvais et je parlais en amharique, donc la langue qui se parle en Éthiopie. Et 6 mois après mon arrivée, j'ai dit à ma mère, je dis mais c'est bizarre. Dans mes rêves, je parlais amharique et je parle français, alors que je suis sûre qu'en Éthiopie, on ne parle pas français. C'est comme ça. Et en fait, c'est à partir de là que j'ai compris que je devenais française. Au bout de 6 mois de mon arrivée, j'ai commencé à perdre ma langue maternelle, mon vocabulaire. Et après, de toute façon, j'avais tellement l'envie de m'intégrer que aussi je cherchais en fait à éteindre cette langue-là. Parce que tout ce qui pouvait me rattacher de l'Éthiopie, fallait qu'il disparaisse.
Le fil à aiguille, comme ça, on a perdu un peu la langue. C'est ça que je reproche, de pas avoir gardé... la langue et puis parler couramment avec ma sœur pour pas le perdre.
Parce que ta sœur elle vivait avec toi ?
Ouais, bah c'est ma sœur adoptive, là, Soline. Donc elle avait des frères et sœurs de son côté. Moi j'avais des frères et sœurs de mon côté et vu que j'étais le plus petit et puis elle c'était la plus petite. Sa sœur, elle pouvait pas Menalou qu'elle s'appelait, elle pouvait pas être adoptée parce qu'elle était plus grande que Soline. Et du coup, comme on était tous les deux, mes parents ils voulaient un garçon et une fille, ils nous ont mis tous les deux dans cette famille, quoi. Mais on avait chacun nos familles respectives là-bas. Et du coup, on est arrivés tous les deux dans la même classe et du coup, on faisait que de parler en éthiopien. Alors, on parlait et puis on faisait pas attention au français. Du coup, mes parents, ils ont dit, comme vous parlez en éthiopien, on va vous séparer. Et du coup, ils nous ont séparés. Puis après, on a perdu un peu la langue, c'est ça que je reproche. Même à la maison, après, on parlait vite fait comme ça entre nous, mais bon, fallait qu'on parle français.
Mon prénom d'origine, c'était Alem Saï. Et puis, du coup, avec nos parents adoptifs, ils nous ont choisi un prénom. Donc un prénom français, qui est Adèle. Quand ça a été changé, j'ai pas forcément trouvé ça normal, ça m'allait bien, un prénom qui était tout doux à prononcer. Par contre, je me souviens d'une petite anecdote qui m'avait à l'époque un peu minée, c'était au niveau du changement de nom de famille.
Ma sœur aînée qui est venue à me dire, on était autour de la cuisine, on n'allait pas tarder à passer à table. Bon, bah maintenant, tu t'appelleras plus qu'à ça, c'est fini, tu t'appelleras Obsor. Et ce jour-là, j'étais vraiment marquée. Je savais que je perdais mon identité, j'allais en gagner une nouvelle, mais ce jour-là, j'étais vraiment pas très bien.
Smelosa, ae smelosa, la tiolke deste smelosa, 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 smelosa.
Je voyais bien que j'étais différente des autres, malgré que tout le monde faisait en sorte de ne pas faire la distinction. Moi, je le sentais, je le percevais, et j'avais envie de ne pas être la petite fille noire, de ne pas être si différente que les autres. Je me rappelle, dans la douche, je me frottais pour enlever ma peau noire. Parce que je me dis, plus je me frotterai, j'arriverai à être blanche. Et je me frottais. Et ma mère m'a expliqué, elle me dit, tu peux pas, t'es née comme ça et tu pourras rien faire. Et ben, du coup, je disais, mais si je mets une crème, enfin, j'étais obsédée, il fallait que je m'identifie à quelque chose. C'est soit j'enlevais ma peau, je devenais blanche, ou soit il me fallait des enfants ou ma famille qui avaient la même couleur que moi. Pendant des années, j'ai été comme ça un peu perturbée par ce manque de miroir. Plus tard, en 2006, je marchais comme ça, je déambulais dans Abyss, on visitait je ne sais plus quoi, un monsieur qui est venu me voir, et qui, donc, à côté de moi, et qui discutait, enfin qui me parlait hein, en amharique. Je me suis sentie perdue. Alors, physiquement, l'effet miroir, il était là. J'étais chez moi, n'importe où j'allais, je m'identifiais bien. Mais par contre, c'est là qu'à partir du moment où il a essayé d'entamer la communication avec moi, waouh, là, c'était l'inverse pour le coup. Je dis, mince, je suis incapable de lui parler. Je comprenais pas ce qu'il me disait. Alors, il avait le sourire, alors moi, je souriais et tout ça. Je lui disais en anglais, je ne parle pas à Marie, que je l'étais en train de lui dire ça. Et c'est là, en fait, du coup, je me suis dit, oui, je suis éthiopienne d'origine. J'ai une histoire avec ce pays, avec cette population, mais je ne suis pas tout à fait éthiopienne non plus.
Tu disais que ton anniversaire, c'était genre entre le 15 et le 20 février. Mais la plupart d'entre nous, en fait, des personnes qui ont été adoptées, en tout cas pour l'Éthiopie, on a une... Genre deux dates ou trois dates de naissance. On a la date légale, où on célèbre l'anniversaire le 1er janvier. C'est la date fixée par l'État quand on ne donne pas de date de naissance. Enfin, quand les parents ne choisissent pas de date. On a la date de notre arrivée en France, mais du coup, c'est la date pour laquelle on célèbre notre anniversaire pour notre famille. Ça correspond plus aussi à l'événement dont tu as parlé, donc à une rencontre, mais qui n'est pas le jour de notre naissance, mais qui est une naissance pour les gens qu'on connaît ici. Mais on avait une vie avant, donc on n'est pas né ce jour-là. Et on a une potentielle autre date qui serait notre vraie date biologique. Du coup, celle de février, elle correspond à quoi ?
Alors, je suis arrivée le 6 janvier 93. Donc du coup, c'est la tradition avec ma mère qu'on mange la galette des rois. Le 22 février, c'est la date de naissance qui m'a été attribuée. Donc je fête officiellement mon anniversaire ce jour-là, avec ma famille, mes amis. Et le 17 juillet 86, c'est ma véritable date de naissance. Moi, ça a été difficile d'accepter cette date de naissance fictive. En plus de ça, c'est que je faisais une tête de plus que les copains-copines de classe et qui avaient tendance un peu se moquer. Mais c'est... Et du coup, moi, j'étais là, mais si, je suis née en 88 comme vous. Enfin, j'essayais de légitimer cette date de naissance-là, même si je savais que ce n'était pas ma vraie date de naissance. Donc, pendant quelques années, je trichais, je mettais 87. Franchement, c'était quelque chose d'essentiel pour moi de savoir vraiment à quelle date j'étais née, l'année, le jour, le mois, parce que ça identifie mon existence. Je sais qu'à cette date-là, je suis née, mon histoire n'est finalement pas inventée.
Après mon voyage en Éthiopie, ça m'a pris d'un coup, là, à l'âge de 20 ans. Je me suis dit, allez hop, j'ai envie de retrouver mes origines, j'ai envie de retrouver mes copains et tout ça. Et du coup, j'avais créé un site internet. J'avais ma liste des enfants qui étaient adoptés en même temps que moi, en français bien sûr, parce que leur prénom éthiopien, je ne me rappelais plus de tout le monde. Le premier que j'ai fait, ça devait être Marie Salomé. Et du coup, j'ai dit salut. Non, c'était la copine à Adèle. Comment elle s'appelle ?
Tiffany.
Tiffany, c'est Tiffany. J'ai dit bonjour, mademoiselle. Voilà, je suis Emilia. J'ai vu que tu étais dans ma liste. Est-ce que tu fais bien partie de ces enfants-là ? Si oui, bah, essaye de me contacter. Je me souviens un peu du camp à Zozo. Est-ce que tu as tes souvenirs-là ? Il y a des gens, ils m'ont envoyé bouler, comme on dit, parce qu'ils ne voulaient plus, même les parents, ils ne voulaient plus que leurs enfants prennent contact avec l'Éthiopie. Et c'était du passé pour eux.
Et du jour où nous-mêmes, on a été adultes, qu'on avait 18 ans, et ben là, on a tous pris des décisions. Soit on revient, on reprend contact, sinon on ne l'aurait pas fait, on aurait encore attendu, on aurait suivi de loin par les réseaux, on aurait vu des fois des écrits sur l'Éthiopie d'un tel. On savait très bien qu'on les connaissait, mais par contre, on ne participerait pas. Et le jour où on est prêt, on le fait. Et c'est ce qui s'est passé pour pas mal de gens. Il y a des gens encore, je sais d'avance, qu'ils ont vu, parce qu'ils publient eux-mêmes des choses sur l'Éthiopie. Par contre, quand on fait des réunions, on les appelle, ils répondent pas encore, parce que je pense qu'honnêtement, ils sont pas prêts.
On est tous différents, quoi. Même si on a la même histoire...
On a le même début d'histoire.
Voilà, le début, après la fin est peut-être pas pareil aussi. Puis moi j'ai eu la chance que je suis tombé sur une bonne famille. Après il y a d'autres gens qui sont pas forcément adaptés à la situation de la famille dans laquelle ils sont tombés aussi. Moi je suis tombé sur une bonne famille, après tant mieux pour moi, mais c'est pas le cas pour tout le monde.
Japoni polela polela, i Japoni polela, abatami sopana, abatami sopana.
Tous les petits souvenirs ou tous les souvenirs que j'ai pu avoir de cette période, pour moi, me rapprochaient encore plus de mon pays, tout simplement. Donc, il y avait des moments où je voyais un reportage sur l'Éthiopie et tout d'un coup, ne serait-ce que par le biais de cette émission, je me voyais que éthiopienne et plus du tout française, alors que c'était totalement débile, parce que une fois que l'émission était finie, l'Éthiopie était rentrée comme en moi à nouveau, et hop, je remettais un couvercle dessus et je reprenais ma vie française juste après l'émission. Mais c'est comme des petites piqûres de rappel qui te font penser à ton pays, avec les odeurs des marchés, le visuel des épices. Et les odeurs de notre enfance, du café fumé, du soleil, de la chaleur du soleil. Tout ça, ça me rappelait beaucoup de notre enfance. Donc la moindre personne qui pouvait bien me parler d'Éthiopie, j'étais bien contente, parce que c'était une fierté pour moi d'appartenir à ce peuple, et que quelqu'un d'ici parle d'autres là-bas.
I don't to Zanti, I don't to Zanti, Zanti Sambarina, les Aolazi, Chucky Chucky Chucky, Chucky Chucky Chucky, Palalam, Palalam, Stoppy. C'est tout.
Est-ce que tu te souviens comment petit à petit on a oublié tout ça ?
Oui, parce qu'on les chantait beaucoup moins, mais moi je les ai tellement chantés que c'est quasiment impossible que ça parte de ma mémoire. Je me souviendrai tout le temps de ces chansons, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a accompagnée toute ma vie. Mon enfance, et c'est ancré, quoi. C'est impossible que ça parte.
Personne ne naît deux fois. De Sarah Obsor. Merci beaucoup à Émilie Indreau, Mathilde Fabre et Adèle Obsor. Je remercie aussi toute l'équipe pédagogique du Créadoc et les camarades. Créadoc Angoulême, le 3 mai 2019.
C'était Inouï.
Inouï.
On vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. All right. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mixing a mingle in the jingling fee. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell rock. That's the jingle bell.
Jingle Bell Rock.
Inouï, une émission.
Une émission de création
et documentaire sonore
par les étudiants du Créadoc d'avant.
Vraiment dans la tradition du terroir.
Et d'aujourd'hui.